Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Biotope, votre rendez-vous justement avec l'initiative écologique en BioVallée. Aujourd'hui, je suis en présence de Viviane Moussolna, bonjour.
Bonjour.
Et de Frédéric Bise, bonjour également.
Bonjour.
Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais rappeler que nous sommes sur RDIWA et sur Radio Saint-Ferréol, 94.2 et 107.5, et aussi sur Internet, par exemple www.rdwa.fr. Voilà, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de l'apport d'Internet dans la BioVallée. De son apport, peut-être qu'on ne l'a pas tout de suite identifié, mais que, en tout cas, on va s'en rendre compte à travers cette émission. Et avec vous, je vais revenir vers vous, Viviane Moussolna. Vous êtes médiatrice numérique pour Pôle Numérique et vous travaillez à l'EPI de Saillant.
Tout à fait.
Et vous, Frédéric Bise, vous êtes le chef de projet de Pôle Numérique.
Un des chefs de projet.
Un des chefs de projet. Mmh. Pôle Numérique qui est basé à Valence. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, expliquons aux auditeurs ce qu'est Pôle Numérique.
Alors, le Pôle Numérique est né en 2008. C'est une association loi 1901 qui est donc une structure qui est née de la volonté des partenaires que sont le Conseil Général et la région Rhône-Alpes en particulier, avec un soutien de la Caisse des dépôts. Donc, naissance en 2008 pour sensibiliser, vulgariser, former, accompagner les collectivités, les entreprises et les citoyens dans les usages et les services de l'économie numérique.
Alors juste, j'entends association loi 1901, c'est donc une association créée par des citoyens ou est-ce que c'est une demande politique ?
Non, c'était une commande politique. Hein. C'était un axe que le Conseil général de la Drôme a voulu porter en liaison, on va dire, avec la région Rhône-Alpes et également la politique à l'époque gouvernementale en faveur de les usages d'Internet et du numérique. Donc qui a été, on va dire, décliné à l'échelle départementale à partir de 2008. À travers la création de l'association qui, effectivement, est constituée d'élus, de chambres consulaires et essentiellement, voilà, je pense que c'est les participants, les administrateurs principaux de l'association.
Et pour terminer justement avec son enveloppe législative à ce pôle numérique, est-ce que c'est une association dans laquelle on peut rentrer librement ou est-ce qu'elle est vraiment complètement chapeautée par les élus, par un programme départemental, vous l'avez dit ?
Alors disons qu'on peut adhérer, mais il n'y a pas une démarche, on va dire, volontariste pour faire adhérer des structures, des collectivités, des entreprises, ce qui serait normalement le fonctionnement de toute association. L'axe de travail n'était pas du tout autour de ça, c'était vraiment dans l'accompagnement, la vulgarisation. Mais effectivement, l'adhésion est ouverte à tout individu, toute organisation qui le souhaiterait.
Alors, restons dans cette historique de création. Pôle Numérique est donc créé pour faire un peu le lien entre ce qui est numérique justement aujourd'hui, donc évidemment Internet, mais peut-être plus largement l'informatique d'une manière générale, avec des entreprises, des particuliers, des communautés, des collectivités territoriales. Comment ça s'est passé, on va dire ? Comment vous avez commencé ?
Disons qu'il y a eu un travail, en tout cas si vous voulez faire le lien avec l'EPI, les usagers, c'est à travers les missions qui ont été confiées au pôle numérique vers les usagers, les citoyens, qu'a été mise en place le réseau et un appel à projet pour les espaces publics Internet dans la Drôme. Il y a eu plusieurs vagues d'appels à projet et c'est vraiment une des actions phares pour aller vers le citoyen que d'ouvrir, que de créer ces espaces publics Internet. L'idée au départ étant d'en ouvrir un par canton pour la Drôme, donc 36 lieux comme ça. À côté de ce travail donc vers les usagers, les citoyens, il y a eu tout un tas de missions effectivement vers les entreprises d'une part en étant à leur disposition pour les accompagner. Il faut se rappeler 2008, c'est pas très loin, Mais ça va très vite dans le monde numérique. Et donc, à l'époque, il y a beaucoup d'entreprises qui découvraient vraiment tout l'aspect réseau social, email, tout ce qui était un petit peu les premières étapes du collaboratif et de l'outil numérique au-delà des logiciels de gestion qui étaient d'ores et déjà utilisés dans les entreprises, quoi. Mais il y avait vraiment un travail important pour préparer, on va dire, les entreprises à l'économie numérique naissante. Et à côté de ça, donc, les collectivités, de la même manière, faisaient appel à partir de ces années-là au pôle numérique pour un peu pareil, de la même manière, appréhender les réseaux dans une mairie, les premiers sites web, les premiers usages collaboratifs à l'intérieur des sites vitrines des collectivités. Enfin voilà, un peu tous les aspects liés à l'informatique, en faisant quelquefois appel à des prestataires, évidemment, puisque nous n'avions pas, quelquefois on avait la compétence, mais on n'avait pas, c'était pas dans nos missions propres d'intervenir, par exemple, sur la constitution ou la mise en place d'un réseau dans une collectivité, évidemment. C'était vraiment une fonction de conseil pour les collectivités et les entreprises, à charge après à eux de trouver les prestataires pour faire le job, quoi.
Pour terminer avec ça, c'est-à-dire que vous mettez en place un certain nombre de personnels qui vont faire, on va dire, des audits, des études, proposer des axes de travail pour les collectivités.
C'est en amont des études, hein. C'est vraiment pour permettre à tous ces acteurs, entreprises, collectivités et puis voilà, citoyens, usagers, de comprendre un peu le monde numérique, les enjeux et de pas, par exemple, pour une commune, de faire des investissements qui soient obsolètes 6 mois après, quoi.
Bon, très bien, comme ça j'espère que tout le monde a bien compris. Vous avez profité donc pour citer, je crois, dans les 3 gros axes, l'action au niveau des collectivités locales, au niveau des entreprises et puis au niveau des usagers. Évidemment, on va se concentrer un peu plus sur les EPI avec vous, peut-être Viviane Moussolna. Et tout ceci pour que quand même les auditeurs continuent à comprendre, on est bien en train de parler de 3 gros axes qui, de fait, font faire des économies, vont vers quelque chose de plus écologique et vers du développement durable. Alors, allons-y sur les EPI.
Alors, justement, puisque Frédéric vient de parler de 2008, création de Pôle numérique, le club informatique de Saillant, avant d'être EPI, Espace Public Internet, s'appelle toujours d'ailleurs le club informatique, lui est né en 2003. Il se trouve que, si vous voulez, tout ce qu'a décrit Frédéric était là. C'est une idée qui a émergé entre Marie-Christine Darfeuil, qui est aujourd'hui présidente de la communauté de communes du Pays de Saillant, Dominique Balderanis, hein, qui est comptable de son métier, et puis une troisième personne qui a déménagé depuis. Ce sont les fondatrices, parce qu'il y avait un monsieur qui est parti, et qui ont voulu, il y a 10 ans, ils voulaient que dans un village, même en zone rurale comme Saillant, mais où les gens étaient quand même assez curieux, ils aient accès au meilleur de la technologie. Donc tout de suite, le projet a pris corps avec, d'une part, une population qui avait de l'appétit, y compris pour le bénévolat, des besoins, des personnes compétentes, parce qu'il y avait un ingénieur en informatique et télécommunications qui était là à ce moment-là de sa vie et qui a passé 3 ans sur Saillant, d'abord en tant que bénévole, puis en tant que salarié. Et puis, il y avait les institutions qui suivaient, puisque les locaux sont mis à disposition, et c'est énorme dans un budget d'une association, les locaux, le chauffage, l'électricité sont mis à disposition par la communauté de communes. Donc, cette triangulation est à la source de ce petit club informatique qui a émergé dans ce petit village sympathique de Saillant. Et d'ailleurs, en discutant avec Madame Sophie Houzet, qui est la directrice de Pôle numérique, il semblerait que le pays de Saillant, en fait, ait été une sorte de laboratoire qui a permis de modéliser ensuite des choses.
Justement, Frédéric, vous disiez tout à l'heure, on a ce rôle de conseil et puis après, on a essayé d'orienter les gens pour qu'ils s'appuient sur ce qu'il y avait déjà localement. Et là, alors soit c'est l'exemple peut-être qui a fait émerger, soit effectivement c'est bien
c'était
une preuve de...
Temps, hein. C'était voilà. Dans l'air du temps, je pense.
Oui, on sous-estime les prédispositions et la capacité des citoyens eux-mêmes à générer ou à répondre à leurs besoins avant que des politiques publiques puissent être mises en place. On le voit de plus en plus. C'est ce que favorise d'ailleurs l'économie numérique et la société de la connaissance, c'est-à-dire la mise en place d'initiatives citoyennes sur lesquelles, effectivement, ensuite viennent se coller quelquefois des politiques publiques ou qui servent d'exemple pour construire des politiques publiques et un cadre réglementaire. Mais l'exemple de Saillant est tout à fait l'illustration de cette démarche qui était en quelque sorte à l'époque innovante par rapport à la société de l'information, quoi.
A-t-il été le point de départ alors de cette réflexion en Drôme ?
Alors ça, je ne pourrais pas vous répondre. Je n'étais pas là à l'époque, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux bien croire donc, ce que vient de dire Viviane, c'est que de par sa structuration à l'origine, il ait pu servir un petit peu de laboratoire et d'idée pour construire derrière une partie du projet des espaces publics Internet de la Drôme. Ça me semble assez logique, oui.
Alors, sachant que ce qui est intéressant aussi dans cette histoire de réseau qu'anime Pôle Numérique, c'est que c'est un réseau qui est aussi national, hein, puisqu'il y a les EPN, espace public numérique. Bon, nous, c'est notre particularité dans la Drôme, c'est un I au lieu d'un N. Mais en fait, c'est un mouvement qui est en train de se mettre en marche, qui est dans toute la France, hein, je ne sais pas au niveau européen comment ça se passe.
Il y a 4700 espaces publics numériques en France. Ouais.
Bon, donc on est effectivement bien parti.
On est dans le coup.
Pour se concentrer un petit peu maintenant, alors donc vous êtes passé de club internet où vous fournissiez un certain nombre de services, peut-être de l'animation, pas mal à cette époque. Maintenant, vous êtes un EPI. Quelles sont les fonctions d'un EPI ?
C'est de permettre à une personne éloignée d'un centre urbain, on va dire. Moi, c'est comme ça que je le vis dans la vallée de la Drôme. Que n'importe quelle personne arrive et de façon gratuite ou quasi moyennant un euro, puisse accéder à Internet. Donc, éventuellement à sa messagerie, et puis éventuellement aussi à acquérir des compétences dans des ateliers.
Ouais, parce qu'il y a l'accès à Internet, mais il y a aussi l'accès à la personne qui gère le pays, là où les personnes, et donc aux services qu'elle peut offrir.
Alors, ces personnes sont très variées, hein, parce que là, je ne voudrais pas parler pour tous les EPI. Alors, à Saillant, nous avons aussi la particularité d'être un espace de vie sociale. C'est-à-dire, dans la catégorie de la Fédération des centres sociaux, on est un petit satellite d'un centre social. Nous sommes en convention avec la MJC Centre Social Ninichèse à Oust. Donc, on a cette dimension sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire faciliter l'accès aux droits, faire de l'e-administration, être disponible pour aider à faire un CV, à aller sur le site de Pôle emploi. C'est toutes ces choses-là que l'on met à disposition des usagers. Quand on dit usager, c'est aussi bien l'adhérent qui a sa carte, etc., que celui qui débarque, qui va passer 2 heures et qu'on ne reverra plus jamais.
Vous voulez compléter ?
Pas compléter, simplement élargir un petit peu par rapport à l'espace public internet de Saillant. Donc au départ, il y avait quand même aussi l'usage de l'outil informatique, parce que là on est absolument sur internet, mais je pense que dans l'initiative au départ, par exemple, du club informatique, c'était de bidouiller, de savoir se servir d'un ordinateur, des logiciels, des logiciels bureautiques en général comme première étape. Mais ensuite, il y a tout l'accès à d'autres logiciels, Photoshop. Enfin, je vois un petit peu ce qui est utilisé dans les EPI. Puis après, la vidéo. Voilà, ça fait partie des ateliers. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a eu au début...
C'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas.
Oui, c'est toujours le cas parce qu'effectivement... On a beau penser que de plus en plus de monde ont un ordinateur, c'est vrai, et ont accès à Internet. De plus en plus de monde savent un petit peu naviguer sur Internet. Mais il n'empêche que, d'après le dernier rapport donc de la politique européenne numérique 2020, il reste encore à peu près 20% de personnes qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas d'outils encore informatiques chez eux. Donc ça veut dire que ce sont des personnes différentes d'il y a 10 ans, mais il y a encore des gens à aller chercher, il y a encore des gens à amener vers ces espaces publics Internet pour qu'ils soient en capacité dans le monde de demain. Mais demain, ce n'est pas dans 20 ans, c'est demain, vraiment dans quelques mois, dans quelques semaines, de pouvoir être en phase avec la société dans laquelle ils vivent, où l'économie numérique, le monde numérique est partout, dans le quotidien de chacun, modifie notre vie professionnelle autant que notre vie personnelle, notre organisation de travail autant que nos loisirs. Et donc, il est absolument indispensable que toutes les personnes puissent avoir accès, dans une démarche sociale, on va dire, puissent avoir accès à l'outil numérique. Donc, s'ils n'ont pas les moyens de se le payer chez eux, l'ordinateur, qu'ils puissent au moins venir à l'EPI et utiliser, comme le décrivait tout à l'heure Viviane, tous les services, en tout cas, dont ils peuvent avoir besoin dans une démarche professionnelle, mais également, pourquoi pas, de joindre ses enfants qui sont à l'autre bout de la France par Facebook ou par... voilà. Et c'est ce que je voulais donc rajouter tout à l'heure à la description de Viviane, c'est qu'au-delà de l'aspect informatique, aujourd'hui, il y a l'aspect Internet, mais il demeure cette nécessité d'avoir ces espaces pour permettre encore à une frange de la population d'avoir accès. Et demain, si je l'espère, cette population-là trouve le chemin de l'espace public Internet pour favoriser son insertion dans la société ou sa réemployabilité, sa reconversion. C'est pareil, dans quelques années, ça sera difficile de concevoir quelqu'un employé dans l'économie numérique, sauf sur quelques parts très infimes des secteurs d'activité où on n'utilise pas d'outils numériques. Ça sera très difficile d'envisager la réemployabilité des personnes et la reconversion s'ils n'ont pas un minimum de base d'usage du numérique, quoi. Et ça, c'est un point qui est important parce que on se pose aujourd'hui la question, malgré les 4500 espaces publics Internet qui existent à travers le pays, 5 ans sont passés. Et aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de ces espaces publics Internet? Parce qu'une partie des personnes qui les fréquentaient ne les fréquentent plus parce qu'ils ont appris à ce que c'était. Donc, on est dans les épis, comme dans beaucoup de secteurs de la société, dans une période de basculement, de changement d'environnement. Et il nous appartient de repenser aujourd'hui, avec les élus, avec les entreprises, avec les usagers, comment ces espaces publics Internet peuvent, pour certains, c'est par exemple pas le cas de Saillant, parce que c'est, voilà, il y a du temps plein, il y a des salariés compétents qui sont là, qui accueillent, donc ça fonctionne assez bien, même s'ils ont aussi un problème, des questions économiques qui se posent en termes de financement ou quoi. Mais pour d'autres, la question est vraiment cruciale, parce qu'ils sont vraiment à un basculement. Ils s'aperçoivent que leurs adhérents commencent à diminuer et que leur offre de services de l'espace public Internet n'est pas en phase quoi, avec les besoins actuels de la population, ou pas totalement en phase. Donc voilà, c'est une réflexion globale qu'il y a et qu'on retrouve d'ailleurs dans la préparation du schéma directeur d'aménagement numérique bidépartemental que nous sommes en train de préparer, c'est-à-dire la question de l'avenir de ces espaces publics Internet. Pour nous, il est incontestable qu'il faut qu'ils gardent une place dans le quotidien des citoyens et une place dans les politiques publiques. Aujourd'hui, on n'a pas encore tout éclairci sur quelle mission, quels moyens, pour quel objectif à moyen terme, par exemple. Mais ça me permet aujourd'hui d'insister sur ce regard et cette analyse que l'équipe du pôle numérique porte sur ces espaces publics Internet, au-delà du fait qu'on a mis en place le réseau. Il ne s'agit pas d'être jusqu'au boutiste, de vouloir maintenir à tout prix les choses. Pour nous, ils sont fondamentaux qu'ils puissent continuer à vivre et à se développer, parce que les territoires en auront besoin demain dans la société de la connaissance qui est en train de gagner toutes les couches de notre société, y compris au fin fond du Diois.
Ben, je l'espère. Et on a entendu deux choses, la nécessité d'avoir un coup d'avance sur les personnes qui seraient déjà équipées, parce que l'offre de services pour se former à un nouveau logiciel, même si on a déjà le matériel chez nous, c'est quand même important. Et puis la deuxième, d'aller chercher maintenant un public qui n'a pas adhéré de lui-même au départ, quoi.
Je peux vous donner un exemple. À Saillant, nous sommes habilités à aider les agriculteurs qui vont faire leur télépac. Ce sera au mois de mars ou avril, bientôt. Et bon, Adi, il n'y a pas de problème, puisque c'est à la DDT que les gens peuvent aller, ou au centre de formation agricole. Mais partout ailleurs, ce n'est pas évident pour un agriculteur d'aller faire sa déclaration.
Quand vous dites habilité, vous avez donc eu une formation pour aider aussi sur les feuillets, etc.
Jérémy Serme, qui est donc le responsable technique du club, a été formé pour ça. Et, voilà. Alors, il faut savoir que, comme c'est une déclaration fiscale, la personne qui touche, c'est l'agriculteur. Hein. C'est lui qui engage. Voilà. Mais par contre, il a quelqu'un, il a un technicien à côté de lui qui lui explique comment faire. Qui ne le laisse pas tout seul devant un écran et un clavier, quoi.
Alors pour conclure un petit peu cette émission, parce qu'on arrive déjà à la fin, ça va vite, 25 minutes, c'est très 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 rapide, je voudrais qu'on se concentre un petit peu sur, voilà, ce que je disais en début d'émission, qu'est-ce qu'un EPI, qu'est-ce qu'un gros secteur numérique comme ça, pensé tel que le pôle numérique sur à l'échelle d'un département, apporte en matière d'écologie, de développement durable, de nouvelles manières de vivre. On a un petit peu entendu déjà, mais je voudrais qu'on renforce un petit peu cette donnée maintenant.
Alors la dimension durable, la première, c'est à mon avis de permettre justement à... On sait qu'on trouve tout, on va trouver de plus en plus tout un tas de services sur le web. C'est de permettre aux gens d'accéder à ces services et de savoir les utiliser. C'est le rôle de l'EPI notamment, pas seulement, mais en tout cas de l'EPI, de faire cette médiation numérique entre ce qui existe sur le web et comment les usagers, les citoyens le comprennent et l'utilisent. Donc ça, c'est un aspect fondamental. Et en utilisant ces services, ben forcément, on a, dans un sens, on réduit un petit peu la nécessité pour les gens de se déplacer pour se rendre à tel ou tel endroit pour tout un tas de démarches, qu'elles soient administratives, professionnelles. Voilà, donc du coup...
Donc on réduit l'empreinte carbone des usagers.
On réduit l'empreinte carbone. C'est un des aspects, mais qui est assez fort pour le peu qu'on reste sur la question de l'EPI, puisqu'après, si on rentre plus en profondeur, mais je pense qu'on n'a pas le temps sur ce que, effectivement, l'impact de l'économie numérique sur cet aspect un peu de développement durable, il est très important. Il y a une autre fonction importante qui va jouer, notamment dans la vallée de la Drôme, c'est le projet donc, de pôle d'excellence rurale sur la mise en place de télécentres dans la vallée de la Drôme. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui a été initié donc, par l'État, par le biais du sous-préfet donc, de Die, il y a 2 ans maintenant, dans laquelle les collectivités sont devenues partenaires. C'est la CCVD qui est un peu tête de pont pour l'ensemble des collectivités de la vallée de la Drôme et interlocuteur de l'État en la manière. Et c'est le pôle numérique qui est l'association chargée d'animer ce projet et d'animer le réseau de télétravail et de télétravailleurs de la vallée de la Drôme qui ensuite pourront trouver un relais dans ces espaces télécentres qui vont être basés à Livron, Cré, Saillant, donc au club informatique, Die, Saint-Julien-en-Quin et Saint-Nazaire-le-Désert. Donc un maillage parfait de la vallée de la Drôme avec au départ donc, la proposition du pôle numérique d'adosser ces télécentres qui sont en fait des espaces où on accueille des télétravailleurs aux EPI qui existaient dans la vallée ou qui étaient sur le point d'exister comme c'est le cas à Cré, le projet étant en préparation, de manière à avoir d'abord à faire le lien avec les dynamiques existant déjà sur les territoires en matière numérique et surtout de profiter de tout le savoir-faire et de toutes les compétences qui existent déjà dans les EPI comme à Saillant à travers la présence de Viviane, de Jérémy et de Annette, la présidente du club. Donc voilà, ça c'est une idée qui est importante de pouvoir adosser ce projet de télécentre qui est dans une dynamique vraiment de développement économique. Et donc là, on rejoint donc votre question évidemment de durable, puisque une des fonctions du télécentre, c'est de permettre d'accueillir des télétravailleurs qui n'auraient pas éventuellement la nécessité de rejoindre leur entreprise, par exemple, qui serait installée dans la vallée du Rhône et qui pourraient 1 ou 2 jours par semaine, plutôt que d'aller jusqu'à Valence, s'arrêter à Crédit, Saint-Nazaire ou Saillant pour télétravailler dans des postes avec des équipements qui seraient à leur disposition et notamment un équipement qu'on espère dans les 12 mois pouvoir concrétiser dans ces lieux qui vont accueillir des télécentres, c'est-à-dire la connexion à la fibre optique avec un débit plus important qui permet des usages professionnels au top, comme on dirait quoi. Voilà, donc là on est
tout ça en lien avec ADN.
Alors tout ça en lien avec ADN qui est une autre structure à côté et qui donc dans la Drôme on va dire pose la dorsale, pose les fourreaux et crée les conditions pour que demain le territoire drômois et ardéchois puisse profiter pleinement des usages et des services du numérique. Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on aura posé les tuyaux, le plus important, l'enjeu aujourd'hui qui est le plus important, c'est les usages et les services qu'il y aura demain. Et de préparer au maximum les territoires à accueillir au mieux ces services et surtout permettre aux territoires et aux gens qui vivent dessus de créer eux-mêmes des services qu'ils pourront mettre sur le web et qui pourront contribuer comme ça à l'économie locale. Mais du local au global, il n'y a qu'un pas qu'on franchit allègrement tous les jours.
Voire justement, ils contribueront à un développement global, mais en restant chez eux. Et donc,
exactement.
On fait des économies. Viviane, mon sondage va y arriver pour terminer.
Donc, à Saillant, cocorico, nous sommes très enthousiastes de tout ce qui se prépare concernant le télétravail. Et donc, dans le mot développement durable qui nous intéresse beaucoup, il y a le mot développement. Et tout le monde a envie de se développer, et notamment économiquement. Donc c'est vraiment la dimension qui va nous intéresser dans les années à venir et pour cette raison, nous avons créé un service de formation professionnelle pour adultes qui permettra à un certain nombre de personnes sur des fonds de formation donc d'avoir des formations toujours sur des champs informatiques et numériques, et à terme de pouvoir attribuer le B2I, parce que les scolaires connaissent ça en troisième, les collégiens.
Moi, je veux bien qu'on me traduise.
Brevet informatique et Internet, c'est les connaissances de base pour aller sur Internet et pour faire un peu de bureautique. Donc, un gamin qui passe son brevet entre fin troisième a été évalué toute l'année sur un site de l'éducation nationale dédié. Et au fur et à mesure des items qui sont assimilés, il a acquis son B2I.
Ce qui n'est pas le cas pour pas mal d'autres.
Ben voilà, c'est
pas mal d'anciens.
Voilà.
D'accord.
Et donc, il y a cette nécessité maintenant dans les CV de pouvoir dire quelque chose de clair sur ses compétences informatiques. Parce qu'un permis de conduire, on sait que ça a été évalué. On l'a eu a priori en le passant. Alors qu'on peut toujours dire n'importe quoi dans un CV sur ses compétences dans ce domaine. Donc ça va être vraiment très important. Et le club de Saillant se situe là-dessus, de pouvoir, d'ici 2 ans, décerner des B2I. Donc Jérémy Serme est en train de se former au C2I 2E, certificat informatique et Internet et d'enseignement et de formation professionnelle, justement. Et qui l'autorisera lui-même à décerner des B2I. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a tout le champ de la formation professionnelle d'adaptation aux prises de poste. C'est-à-dire qu'un employeur nous dit, voilà, moi, je suis dans l'hôtellerie, j'ai un jeune qui est comme ci, qui est comme ça, qui sort du Greta. On a eu une demande la semaine dernière, mais il n'a pas eu de module informatique et il va faire de l'accueil. Est-ce que vous pouvez le prendre en main? Donc, on évalue le nombre d'heures nécessaires, etc. Voilà. C'est adapté aux besoins du poste.
Donc plus que de développement durable, finalement, on a parlé d'avenir là.
Oui, complètement. Et dans cet avenir, ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces espaces publics Internet, qu'ils soient positionnés, je crois beaucoup au fait qu'ils ne fonctionnent pas tous dans un même cadre, peut-être avec un petit socle commun, mais en tout cas, leur vocation demain, c'est de s'adapter au maximum au territoire, à l'environnement dans lequel ils évoluent, à savoir être en lien avec les besoins même du territoire, son identité culturelle, la stratégie éventuellement de développement du territoire, en l'occurrence, sur la vallée de la Drôme, elle est assez forte et partagée. Voilà, et donc à travers le département, il n'y a pas de règles commune dans laquelle tout le monde va rentrer un entonnoir. Non, il faut que chacun fasse ce travail un petit peu prospectif par rapport au développement de son propre EPI et trouve les termes, un peu comme ça s'est fait à Saillant sur le volet formation, les termes de son futur modèle économique, parce que cette question, effectivement, même s'il est nécessaire, je pense, dans une phase transitoire que la collectivité vienne encore soutenir un peu les espaces publics qui pensent à leur modèle économique pérenne à moyen terme, quoi. Et la petite information que je dis juste à la fin de l'émission, c'est que ces espaces de télécentre, nous les envisageons aussi sur un mode de coworking, mode qui est surtout utilisé en milieu urbain jusqu'ici, qu'on va essayer d'inventer et d'expérimenter en milieu rural à travers la vallée de la Drôme, mais qui est en fait d'offrir donc des espaces pour des télétravailleurs dans une dynamique professionnelle, mais en allant un petit peu au-delà, c'est-à-dire c'est pas simplement des bureaux avec des PC ou des prises à disposition des gens qui viendraient avec leur portable, c'est surtout un cadre commun et un espace convivial dans lequel on crée la rencontre pour que de ces échanges entre personnes de statut, de classe ou de niveaux différents puissent naître des projets innovants, encore une fois, qui partiront du territoire.
Frédéric Bise, Viviane Moussolna, merci bien à vous deux. C'était
merci
très intéressant. Et
merci.
Donc, vu qu'on a compris qu'il y avait autant d'épis que de territoires, on va pouvoir refaire cette émission avec d'autres. Très bel exemple, en tout cas, de ce qui se passe à Saillant.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Il y a 3 ans, Jean-Claude Mingoni, installé dans la vallée de Quin, lançait une initiative internet intéressante concernant le Diwa. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour.
Peux-tu nous parler de ce que tu as fait ?
Oui, en fait, ça s'appelle les petites annonces Diwa Val de Drôme. En fait, il s'agit simplement d'envoyer des petites annonces sous plusieurs rubriques. Les gens s'inscrivent tout à fait gratuitement, c'est du bénévolat. Et je récolte un certain nombre d'annonces qui me sont envoyées. Je les formate dans un format PDF ou dans un format email. Et je les envoie, on est environ actuellement, en gros 350, à recevoir ces petites annonces qui sont en principe hebdomadaires.
Alors comment récoltes-tu les informations ?
En fait, avant, au tout début, je récoltais des informations dans tous les canaux possibles et imaginables. Maintenant, je ne récolte plus rien. C'est vraiment les bénéficiaires des annonces qui me les envoient. Je les stocke et puis une fois par semaine, je les formate et je les envoie à tout le monde.
Et ça fait combien d'annonces par envoi ?
C'est difficile à dire, mais je pense que là, le dernier envoi, il y avait une quarantaine d'annonces, grosso modo. Alors, ce n'est pas uniquement des annonces, hein, il y a plusieurs rubriques. Il y a une rubrique événements, donc ce qui se passe dans les 4 ou 5 semaines qui suivent. Il y a une rubrique qui est nouvelle, qui s'appelle « Je prête ». Donc des gens qui prêtent du matériel qu'ils utilisent très très peu, c'est une super initiative. Il y a une rubrique « Je cherche, je vends, je donne ». Donc ça, c'est vraiment des petites annonces, hein, genre je cherche une habitation à 10. Et puis, il y a une rubrique qui est plus axée Internet, qui des coups de cœur ou bien des sites Internet du DIY ou du Val-de-Drôme qui sont intéressants et que j'essaye de répertorier et de signaler.
Quelles seraient les difficultés que tu as éprouvées dans ce projet, en fait ?
Bon, il n'y en a pas vraiment. Le point de blocage possible, c'est que... À un moment, je considère que mes priorités, c'est de rentrer quelques sous dans la famille Mangoni et que je mette ça de côté. Donc, c'est le problème du bénévolat et des petites initiatives de bénévoles, quoi, tout simplement. Pour l'instant, ça va. Bon, ça me prend deux heures par semaine. C'est pas encore extraordinaire comme temps passé.
Alors, à part le temps passé, ça ne coûte rien, cette initiative, je suppose.
Non, c'est tout à fait gratuit. Et puis, je précise que je ne divulgue jamais les adresses e-mail des gens, en fait, qui me sont confiés. Je les possède, j'envoie les emails en copie cachée, donc il n'y a pas d'adresse email qui est répertoriée, qui navigue sur Internet.
Depuis 3 ans que cet envoi hebdomadaire d'annonces se fait, quel serait le bilan que tu pourrais en tirer ?
Ben, c'est un bilan super positif parce qu'il y a beaucoup de gens que je croise dans la rue qui me disent « Ah super, j'ai trouvé acquéreur pour » ou bien « Je cherchais absolument un truc et une personne me l'a proposé ». Donc il y a beaucoup de taux de réussite, on va dire. Je reçois environ 5 coups de fil ou bien 5 emails par semaine me disant « Ah super, j'ai trouvé ce que je cherchais, merci beaucoup ». Donc c'est un truc qui marche parce que je pense qu'il y a un besoin derrière. Et puis je reçois environ actuellement entre 3 et 5 demandes d'inscription. Des gens du DIY, des gens du Val-de-Drôme, des gens même plus loin, il y a des gens de Haute-Savoie qui reçoivent ces petites annonces simplement parce qu'ils aiment la région. Ils n'y habitent pas mais ils restent en lien avec la région grâce à cette petite initiative.
Alors, si quelqu'un voulait reproduire cette initiative ailleurs, est-ce que tu accepterais de donner tes coordonnées pour éventuellement dire comment tu as procédé ?
Tout à fait, c'est très simple, hein, donc il n'y a pas de souci. Je peux donner soit un numéro de téléphone, soit une adresse email, et on peut lancer aussi un petit message aux gens qui ne connaissent pas encore l'existence des petites annonces. S'ils veulent y participer, s'ils veulent simplement recevoir les petites annonces, un simple mail à Jean-Claude, tout attaché, sans tirer, point, Mengoni. mengoni@free.fr suffit. Voilà, un téléphone peut-être, 04 75 21 26 34.
Merci Jean-Claude.
À bientôt.
Au revoir.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.